Rendons grâce au Seigneur aussi pour ce jour qu'il a fait pour que nous entendions sa parole, que nous soyons bénis, que nous y répondions, que nous y croyions et que nous ayons ainsi part à ce qu'il fait maintenant. Tous ceux qui étaient ici hier soir savent à quel point nous avons été touchés lorsque la parole de Dieu nous a été adressée. Je dois dire que je suis encore aujourd'hui sous l'impression, sous le coup de cette impression. Et je me demande si nous avons compris la grâce qui nous a été accordée de pouvoir entendre ce que nous entendons, de pouvoir croire, comme le dit les Écritures, sans aucune interprétation humaine. Frère Kupfer, mon vieil ami m'a dit après la réunion d'hier soir, je suis un peu déçu que l'écho n'ait pas été présent dans la réunion. Et j'ai eu l'impression que nous étions tellement dépassés, touchés, que nous ne savions pas du tout comment, en fait, réagir. Mais j'ai quand même une demande à nous tous. Quand la parole de Dieu inonde nos cœurs et qu'elle nous saisit intérieurement, accompagnons-la et soyons reconnaissants. Accompagnons-la de reconnaissance, car elle commence à brûler en nous parce qu'il nous parle. Et là, il ne faut pas s'en priver, mais il faut aussi lui offrir l'honneur et la louange pour tout. Vous remarquez que je suis encore un peu tendu de la nuit dernière. Une telle prédication, n'est-ce pas, prend aussi un peu, nous prend un peu de force physique. Et puis j'ai beaucoup de tâches à remplir, à accomplir, alors que d'autres se reposent déjà. Ce sont des choses que j'ai à faire. Demain matin, le vol aura lieu pour l'Afrique. Et beaucoup de choses doivent être encore faites. Mais nous sommes reconnaissants à Dieu de ce qu'il nous accorde toujours de nouvelles forces. Et cela suffit. Cela suffit. Tout comme les exigences sont là, telles qu'elles sont là, et ainsi il nous donne aussi en conséquence la force d'aller de l'avant. Aujourd'hui, encore nous allons examiner quelques passages de l'Écriture. Toutes les réunions ne sont pas identiques. Chacune d'entre elles peuvent avoir un caractère différent. L'important, c'est que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit parmi nous, dans notre vie, et que ce ne soient pas seulement des paroles que nous entendions, mais que le royaume de Dieu vraiment existe aussi en puissance et peut être manifesté en puissance en nous et par nous et parmi nous. Car au fond, c'est de cela qu'il s'agit. Nous l'avons déjà entendu, le magnifique psaume, nous l'avons lu avec vous et il est ici écrit au dernier verset. Tu me montres le chemin de la vie. Devant ta face, les joies abondent et les bénédictions sont à jamais à ta droite, sont éternellement à ta droite. Tu me montres le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu. Il n'a pas donné le psaume. Et elle nous a été donnée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant d'aller dans d'autres écritures bibliques, j'ai pensé aussi au psaume 22, du verset 26, psaume 22, du verset 26. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Que les malheureux mangent à satiété et que ceux qui cherchent l'Éternel le louent. Que votre cœur revive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront. Elles se convertiront à l'Éternel. Et devant toi se prosterneront toutes les descendances des païens. Car à l'Éternel appartient la domination et il est le chef des peuples. Devant lui se prosterneront tous les grands de la terre. Devant lui fléchiront les genoux tous ceux qui descendent dans la poussière de la terre. Seulement jusqu'ici, cette parole merveilleuse. Le jour et l'heure arrivent où l'Éternel Dieu se dressera en maître des nations, en seigneur, en roi. Aujourd'hui, il est méprisé. Aujourd'hui, il n'est évoqué que là où il s'inscrit dans le programme, là où la place dans leur programme, mais qui est prêt vraiment à croire de tout son cœur et à servir le Seigneur aujourd'hui. Nous l'avons lu ici, que votre cœur revive pour toujours, à jamais. Pas seulement être touché un peu, mais revivre. Oui, recevoir la vie éternelle. Toutes les extrémités de la terre se convertiront au Seigneur et toutes les descendances des païens se prosterneront devant lui. Je pense ici à la parole d'hier et en lien avec elle à quelques passages bibliques que je voudrais tout de même lire. Commençons par Luc 16. Avec ce 16e verset que tout le monde connaît. Nous avons parlé hier du royaume de Dieu et du fait que le royaume de Dieu a été donné pour que nous en portions les fruits. Et que si nous n'en portons pas les fruits, il nous sera enlevé pour être donné à ceux qui sont prêts à en porter les fruits. Nous avons lu cela hier. Il serait peut-être nécessaire de le relire pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Commençons donc d'abord avec Matthieu 21, verset 43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu, Matthieu 21, verset 43, vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. Maintenant, nous allons à Luc 16. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes vont jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est proclamé par l'Évangile. Et chacun, laissez-moi encore relire une fois ce verset. La loi Et les prophètes vont jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est proclamé par l'Évangile. Et chacun use de violence pour y entrer. Cette parole est très importante. Importante pour toi et pour moi. Pour tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu. Il y aura suffisamment d'obstacles sur ton chemin. Suffisamment d'amis qui voudront t'arrêter, te retenir. Des voix s'élèveront pour dire que ce que tes parents étaient grands-parents croyaient, tu le crois aussi et cela suffirait. Cela suffira. Non, il y aura suffisamment d'obstacles. Tu devras faire usage de la force pour t'arracher à tout cela et te faire entrer avec violence dans le royaume de Dieu pour en devenir une partie. Faire partie de ce royaume de Dieu. Comme nous l'avons déjà souligné hier soir, pas un peu de religion, pas un peu de christianisme, mais le royaume de Dieu, ici sur terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme au ciel, donc aussi sur la terre. Or, nous apprenons ici que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean et qu'à partir de là, le royaume de Dieu est annoncé par l'Évangile, par le message du salut. Dans ce message du salut doit être inclus tout ce qui sert au salut et en fait partie. Nous passons au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Il y avait un tournant pour que l'Écriture s'accomplisse une fois de plus et que le royaume de Dieu soit annoncé aux nations. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 46. Ici, il est écrit, « Or, Paul et Barnabas leur déclarèrent avec audace. Il fallait, Actes d'Apôtre 13, verset 46, il fallait que la parole de Dieu vous soit d'abord annoncée. Mais parce que vous la rejetez et que vous ne vous estimez pas digne de la vie éternelle, nous nous tournons maintenant vers les païens. Avons-nous compris ce qui est écrit dans ce verset? Le royaume de Dieu est lié à la parole de Dieu. La parole de Dieu est liée à Dieu lui-même. Nous ne pouvons pas, nous pouvons être que dans le royaume de Dieu que si nous entendons et recevons et croyons la parole de Dieu. Et elle est liée à la vie éternelle, à la vie éternelle. Car elle est écrite ici, « Mais parce que vous la repoussez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. » Beaucoup de gens n'ont pas encore compris cela. Ils font confiance à l'Église ou à n'importe quelle personne et pensent peut-être obtenir ainsi la vie éternelle. La vie éternelle n'est qu'en Dieu. Et la vie éternelle s'est manifestée sur terre en Christ. C'est en lui qu'était la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, par la prédication de la parole, la vie éternelle est présentée aux hommes. Celui qui rejette la parole ne se considère pas comme digne de la vie éternelle. Je relis le verset pour que vous puissiez voir la pleine signification de la proclamation et de l'importance de la proclamation de la parole. À quoi est-ce que cela est lié? Alors Paul et Barnabas leur déclarèrent avec audace, le verset 46 d'Actes 13. Il fallait que la parole de Dieu vous soit d'abord annoncée, mais parce que vous la rejetez. Leur service religieux prenait leur cours. Tout était aussi solennel qu'avant et qu'après, quoi qu'ils aient rejeté la parole. Mais la parole de l'heure, la proclamation de l'évangile, le royaume de Dieu qui s'est frayé un chemin dans leur temps, ils ne l'ont pas compris, ils l'ont rejeté et ne se sont donc pas jugés dignes de la vie éternelle. Et écoutez bien, celui qui rejette la parole promise pour ce temps, il n'a aucune semence en lui, d'où pourrait sortir une vie nouvelle. Il s'agit de la parole de l'heure dans le royaume de Dieu, et non d'un peu de piété. Il s'agit d'écouter maintenant ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'agit de donc dit à l'église, il s'agit de croire ce que Dieu nous a promis pour ce temps. C'est ce qui fait la différence entre toutes les églises et l'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant reçoit et accepte la parole de Dieu, se juge digne de la vie éternelle et est heureuse d'entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Cela va encore plus loin, le verset 47 dans Actes 13. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai fait lumière des nations pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le psaume 22, nous avons lu que l'Éternel est le maître des nations, le chef des peuples, et que tous les peuples se prosterneront devant lui. Nous voyons ici comment la prédication est l'annonce du salut divin. Vous connaissez mon traité ou l'un des écrits dans lequel j'ai brièvement noté la phrase selon laquelle les hommes sont préparés à la béatitude tout au long de leur vie et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, ils n'ont pas été sauvés. Bien que les derniers sacrements leur aient été donnés à la fin. Et c'est alors qu'intervient ce serment de révélation, on ne peut pas l'appeler autrement. Cet aveu, le frère ou la sœur n'ont pas atterri en haut, mais quelque part en bas. Avec Dieu, c'est tout à fait différent. Ici, ce ne sont pas les hommes qui sauvent, qui procurent la béatitude. Ici, il n'y a pas d'autorité dans une fonction. Ici, il y a l'autorité divine de la parole de Dieu au milieu de nous. Et c'est à cette autorité divine de la parole que nous nous soumettons. Tous, que nous servions ou que nous soyons servis, que nous prêchions ou que nous écoutions la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule, ou bien écoutions la prédication. Il n'y a qu'une seule autorité dans l'église du Dieu vivant et c'est l'autorité de la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule tête et la tête, c'est Jésus-Christ. Et la tête nous suffit. Il ne peut donc pas avoir de tête au pluriel, ou bien alors de chef au pluriel. Il peut y en avoir dans une institution terrestre, mais pas que l'on place encore un chef sur la tête du corps de Christ. En vérité, cela ne serait plus regardable. Et pour nous qui avons entendu la parole de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui entre en ligne de compte, c'est la voix divine qui mène au salut, la parole de Dieu qui est annoncée. Et nous voulons nous considérer comme dignes de la vie éternelle et être attentifs, donc en étant attentifs à ce que Dieu dit, en mettant en pratique ce que Dieu dit. Combien ont la certitude d'avoir reçu la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Par la foi qui est venue de la parole de Dieu, par la prédication, par la foi qui est sortie de la prédication de la pure parole, par la foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, par la foi comme le dit l'Écriture. Ce n'est pas n'importe quelle foi, mais la foi biblique seule qui rend, donc la seule qui sauve. Et c'est pourquoi il est aussi écrit en référence à cela dans la lettre aux Éphésiens, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Les hommes ont fait beaucoup de choses. Dans le royaume de Dieu, une seule chose est valable dans tous les cas. Le baptême biblique, la foi biblique, la prédication biblique, il n'y a pas deux ou trois éditions d'une même chose. Tout est au singulier. Un seul Seigneur, qu'une seule foi, qu'un seul Seigneur, qu'un seul baptême, qu'une seule Église, qu'un seul royaume de Dieu. Et c'est à cela que nous voulons appartenir. Retenons que nous avons lu que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en produira les fruits. Notre frère Gaël l'a déjà mentionné. C'est une douleur de devoir penser qu'un peuple élu a été spécialement choisi par Dieu. Et qu'ensuite, à l'heure la plus importante de toute son histoire, il ne reconnaît pas le jour et le moment de la visitation divine. C'est une douleur profonde lorsqu'il a dû dire ou qu'il est écrit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. C'est en effet en son nom que le pardon des péchés devait être prêché à toutes les nations. Permettez-moi de vous le lire dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Ça devrait être encore écrit ici, si je me souviens bien, que c'est en son nom qu'il faut prêcher. Oui. Dans Luc 24, versets 45 à 47. Luc 24, verset 45. Sur quoi il leur ouvrit le sens pour la compréhension des Écritures. Et il leur dit, il est donc écrit, il faut que Christ souffre, que le Christ souffre et qu'il ressuscite d'entre les morts le troisième jour. Et à cause de son nom, il faut que la repentance pour la rémission des péchés soit prêchée à toutes les nations. Mais d'abord à Jérusalem. C'est là que tout a commencé, puis a continué vers les peuples. Lorsque notre Seigneur était sur terre, il a donné comme instruction à ses disciples de ne pas prendre le chemin des nations, des païens, mais d'aller seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ensuite est venu le temps où tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations ont pu être inclus dans le salut de Dieu. Et c'est ainsi que nous devons comprendre la parole que nous venons de lire en partie dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Je voudrais lire ici le verset 48. Actes des Apôtres 13, verset 48. Quand les païens entendirent cela, ils se réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur. Et tous, dans la mesure où ils étaient destinés à la vie éternelle, crurent. Seul l'homme qui devient vraiment croyant peut être sauvé. Celui qui reste incrédule sera condamné. C'est ce qui est écrit dans Marc 16. Croire en qui? Croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et devenir croyant implique de le croire, d'accepter avec foi ce qu'il a dit et de le mettre en pratique. Ne pas se contenter de le dire de bouche. Je crois, mais de le soutenir par l'action. Poursuivons avec la pensée du royaume de Dieu. Dans Luc chapitre 13, il y a également une parole très triste, mais elle est liée à ce que nous avons déjà examiné, observé. Luc 13, du verset 28. Luc 13, 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Remarquez-vous ce qu'entraîne le rejet du Seigneur, d'avoir soi-même rejeté le Seigneur de son vivant. Celui qui le rejette sera rejeté par lui, de lui, par lui. Est-ce que c'est compréhensible? Ce n'est pas à cause du Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés, secourus. Mais tous ne se laissent pas aider. Tous ne peuvent pas croire. Ils seront dehors. Mais Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu seront dans le royaume de Dieu alors qu'ils seront eux-mêmes poussés dehors, jetés dehors. Le verset 29 dit ceci. Et ils viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Et ils s'assieront au festin dans le royaume de Dieu. Écoutez bien, attentivement. Tous ceux qui prendront part au repas de noces dans le royaume de Dieu, oui, au jour que Dieu a déjà fixé, au festin, ceux-là ont de leur vivant, dans leur temps, écouté, entendu la parole, l'ont reçu dans la foi, sont de leur vivant ici sur terre déjà entrés dans le royaume de Dieu, dès ici-bas pour pouvoir ensuite être dans le royaume de Dieu. Un homme qui n'entre pas dans le royaume de Dieu de son vivant n'y sera pas après sa mort. Un homme qui de son vivant n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, n'est pas né de nouveau de son vivant, il ne naîtra pas de nouveau après la mort. Non. Est-ce que ce n'est pas compréhensible? Cela commence ici, aujourd'hui, avec toi, avec Dieu, avec moi et avec Dieu. Alors, celui qui veut être avec Abraham, Isaac et Jacob et avec tous les prophètes dans le royaume de Dieu, La foi, comme croyait Abraham, crois comme Abraham a cru, sois obéissant comme il a obéi, lève-toi et sors comme il est sorti, quitte ta patrie, ta parenté, laisse tout en arrière et va dans le pays que je te montrerai. Abraham, il sera ainsi. Il sera dans ce pays. Abraham sera dans ce pays. Et tous ceux qui se seront mis en route après avoir entendu l'appel et ont tout laissé derrière eux, qui ne se seront pas laissés retenus et détournés, mais qui auront ressenti l'appel divin, ils seront dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui écoutent maintenant ce que dit le Seigneur entendront aussi sa voix le jour où il les appellera. Et ils sortiront pour être avec lui. Seul celui qui vraiment maintenant écoute, entend vraiment la voix du Seigneur et répond et croit, aura aussi part. Comme c'est magnifiquement écrit ici à l'échelle mondiale, et ils viendront de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et ils s'assieront au festin dans le royaume de Dieu. Passons ainsi à Matthieu chapitre 22. Vous savez que notre Seigneur a toujours parlé en parabole. Ici, au verset 2, Matthieu 22, verset 2, le royaume des cieux est comparable à un roi qui aurait voulu organiser des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Comme c'est triste. Quelle tristesse. Un grand festin devait avoir lieu. Les invités étaient conviés, mais ils ne voulaient pas venir. C'est pourquoi il est écrit dans Apocalypse 19, « Bénis ceux qui prennent part au festin des noces de l'agneau. Bénis celui qui a part à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Il y a des appelés, il y a des élus. Nous le voyons dans la parabole de Matthieu, chapitre 25. La moitié de ceux qui se sont mis en route pour rencontrer l'époux étaient folle et l'autre moitié était sage. Cela est passé au milieu. Qui sont donc les folles et qui sont les sages? Les folles se sont contentées de l'éclaircissement de la lampe dans leurs mains. Les sages voulaient de la réserve. Elles ne voulaient pas manquer d'huile lorsque cette heure particulière serait là au milieu de la nuit. Et nous voilà déjà au cœur du sujet le plus important pour nous croyants de la fin des temps. Le message qui précède la seconde venue du Christ, l'appel qui retentit pour qu'un appel à sortir et une préparation puisse avoir lieu. Et nous pouvons le lire. La même parole qui est utilisée dans le prophète Ésaïe, une voix retentit, un appel est lancé. Un cri est lancé ici, il s'agit de nouveau d'un cri. Il s'agit ici de faire en sorte que les hommes entendent l'appel de Dieu, le cri de Dieu, non pas le cri d'un autre homme, mais le cri de Dieu, l'appel de Dieu. Et ça, c'est le message que nous avons entendue dans ce temps, qui inclut toutes les promesses, toute la prophétie. Et c'est pourquoi nous savons que s'il est écrit ici qu'il y a eu un cri ou qu'un appel a retenti, voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Alors, il doit y avoir des gens qui se laissent interpeller par Dieu, des hommes qui écoutent et reçoivent la parole de l'heure, des hommes qui puisent dans la réserve divine, qui ne se contentent pas de la nouvelle naissance, de l'éclaircissement, de la compréhension de la parole et du renouvellement, mais qui peuvent toujours remplir leur vase d'huile divine. Cela nous rappelle le chandelier à sept branches, à cette conduite du chapitre 4 de Zacharie. Écoutez bien, attentivement, tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification très particulière. Je vous le lis, le chapitre 4 de Zacharie, pour que vous sachiez ce qu'est ce récipient d'huile et ce qu'il signifie. Dans Zacharie, le chapitre 4, ici nous lisons à partir du verset 2. Il me demanda, « Que vois-tu ?» Je répondis, « Je vois un chandelier tout en or, avec un réservoir d'huile en son sommet. Et sept lampes qui y sont fixées et sept conduits de couler pour les lampes qui y sont fixées. Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament qu'il est question de lampes et de chandeliers, de vierges, de repas, du festin des noces, du Saint-Esprit, d'huile et ainsi de suite, nous devons toujours revenir au modèle biblique, au point de départ de ces choses. Donc, un chandelier. Que signifie le chandelier? Je vous le lis du Nouveau Testament, dans Apocalypse, le chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, ici il est écrit au verset 12. Puis, je me retournais et je voulais chercher à voir la voix qui me parlait. Et quand je me retournais, je vis sept chandeliers d'or. Ici, Jean a vu l'Église unique de la Nouvelle Alliance dans ces sept époques. En effet, il y avait sept conduits coulés. Et il y a sept anges comme messager de l'Église pour les sept époques de l'Église. Permettez-moi de lire également cela dans Apocalypse, le chapitre 1, au verset 20, il est écrit, Apocalypse chapitre 1, verset 20, maintenant, quant au mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. Dieu a choisi sept églises locales dans le christianisme primitif. Vous pouvez le lire. La première à Éphèse, la deuxième à Smyrne, la troisième à Pergame, la quatrième à Thyatire, et puis Élieux, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Sept églises locales, et du point de vue de la prophétie et de l'histoire du salut, déterminé au déroulement, déterminé à l'avance. Il a déterminé à l'avance le cours de l'unique Église du Nouveau Testament afin de pouvoir donner le message qui serait alors apporté à ce moment-là. Ce qui est important pour nous lorsque nous revenons à Zacharie 4, c'est ce réservoir d'huile. Cette réserve, ce récipient, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. C'est un récipient, un réservoir dans lequel il y a une réserve. Et c'est justement ce réservoir-là qui fait la différence entre les sages et les folles. Ce réservoir, ce vase avec l'huile, on peut dire récipient ou on peut dire vase ou bien réservoir. On peut utiliser de nombreux mots pour désigner la même chose. L'important, c'est de comprendre la chose elle-même. Mais une seule Église passe par cette époque. C'est pourquoi un seul réservoir d'huile met sept conduits et sept lampes pour placer à nouveau sur le chandelier la lumière de la parole révélée à chaque âge de l'Église. Et Jésus, notre Seigneur, a dit, la lumière n'est pas donnée pour être allumée et ensuite mise sous le boisseau, mais pour être placée sur le chandelier. Vous pouvez lire les derniers versets du chapitre 8 d'Ésaïe, puis les premiers du chapitre 9, ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Qu'est-ce que c'était? Une parole devenue chair. La prophétie biblique dans son accomplissement. Et c'est ainsi que le royaume de Dieu a commencé, comme nous l'avons souvent souligné. Le prophète avait déjà vu ce chandelier d'or dans l'Ancien Testament. L'Église du Nouveau Testament. Il a vu le réservoir d'huile. Et il a vu les sept conduits de couler pour les sept lampes qui s'y trouvent. Je suis très reconnaissant à Dieu pour cela. De ne pas avoir seulement des lampes, mais de reconnaître qu'il y a eu sept époques. Et que l'Esprit de Dieu s'est toujours frayé un chemin dans chaque époque, qu'il a révélé des choses cachées et fait connaître des choses tenues secrètes. Et nous vivons à l'époque où tous les mystères de la parole de Dieu sont révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Mais il faut que nous soyons connectés avec l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu coule sur nous. Celui qui ne voit pas cette connexion divine peut même avoir expérimenté la nouvelle naissance. Et puis tout d'un coup, il dévie, il ne peut pas suivre tout le chemin avec Dieu. Mais s'il est écrit ici que le chandelier d'or avait sept lampes, sept conduits de couler. Et s'il est écrit dans le Nouveau Testament qu'il y avait sept étoiles dans la main droite du Seigneur et que les sept étoiles étaient les sept anges des sept églises. Donc, celui qui est de Dieu respectera cet ordre divin. Dans le royaume de Dieu, il y a un ordre divin. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix dans toutes les églises des saints. Mais les saints se soumettent à sa parole. Et ça, ce sont les vierges sages. Ça, ce sont les élus. Ils voient, ils reconnaissent, ils prennent et puisent de ce réservoir d'huile-là, de cette réserve, afin d'avoir des provisions pour elles-mêmes lorsque l'heure viendra où des provisions seront nécessaires. Une réserve sera nécessaire. L'un est lié à l'autre. Supposons que des gens deviennent croyants. Ils deviennent, donc ils reçoivent la lumière, la clarté, la compréhension et ainsi de suite, mais ne reconnaissent pas la manière avec laquelle Dieu a organisé, a ordonné et classé toutes les choses que dans les sept lettres et d'Apocalypse 2 et 3, il est écrit sept fois que celui qui a les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et qui l'Esprit a-t-il pris, utilisé pour apporter le message? Mais toujours l'ange de l'église. Et alors l'église devrait entendre. Mais si quelqu'un dit, je suis croyant, mais j'ai la parole de Dieu, je sais, je m'y connais, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Supposons que Dieu ait envoyé un Jean, et que ce que nous croyons de tout notre cœur. Et il y avait des gens qui disaient non, ça ne rentre pas dans notre programme. Mais cela faisait partie du programme de Dieu. Jean faisait partie du programme de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, tous ceux qui ont suivi son message et lui ont donné la foi, ont cru en lui, se sont laissés baptiser. Et les pharisiens ont rejeté pour leur personne le dessein de Dieu. Connaissez-vous toute cette parole? Pourquoi ont-ils rejeté le conseil de Dieu? Simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu que le royaume de Dieu est déjà au milieu d'eux et que les préparatifs ont été faits par un message que Dieu a envoyé par son messager à l'époque. Les gens l'ont rejeté et ont continué à suivre leurs anciennes voies. Ce sont des individus que Dieu a appelés à sortir, auxquels il s'est adressé et qu'il a ensuite rassemblé dans son ensemble pour en faire un nouveau. Et c'est une chose nouvelle, et c'est de cette chose nouvelle qu'il a fait son Église. Depuis la Pentecôte, et écoutez bien le récit d'Actes chapitre 2. Il y avait des Médès, des Perses et des Élamites. Il y avait au moins 16, 17, 18 nationalités différentes. Déjà là, Dieu a montré que tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations recevraient le salut. Il s'agissait de personnes attirées par l'effusion de l'Esprit et ainsi introduites donc des personnes dans le royaume de Dieu. La même chose se produit aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui doit attirer l'homme, convaincre l'homme du péché, d'incrédulité, du jugement. L'Esprit, donc du péché, de l'incrédulité et du jugement. L'Esprit de Dieu doit agir et opérer cela dans le cœur des hommes. Revenons ici à cette parole pour voir à quelle vitesse les hommes peuvent rejeter le conseil de Dieu pour leur personne et avoir alors leur propre programme au sein du royaume de Dieu. Nous l'avons souvent dit, nous ne sommes pas intéressés par nos propres programmes, mais nous aimerions bien faire partie du plan de Dieu en ce moment. Simplement être intégré dans ce que Dieu fait maintenant. Participer, prendre part consciemment à ce qui se passe maintenant dans le royaume de Dieu. Un réservoir d'huile, mais sept conduits, sept lampes. car il fallait toujours prendre un nouveau départ. Je vous dis encore une chose. Ici même, justement dans Zacharie 4, il est écrit aussi de la dernière pierre. Croyez-le, les prophètes ont déjà vu les choses en leur temps par l'esprit. Peut-être pas encore aussi clairement que nous les voyons aujourd'hui. Parce que le temps n'était pas là. Le temps de l'accomplissement. Pour pouvoir tout classer et situer. Ce n'est que lorsque la prophétie biblique s'accomplit que nous pouvons la classer. Bibliquement, le Seigneur Jésus a dit assez souvent, quand vous verrez ceci ou cela, alors vous saurez et reconnaîtrez par là que le temps est proche. Si nous regardons dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, il y a eu plus de 100 prophéties et l'on aurait dû espérer que ceux qui connaissent l'Écriture, en particulier, verraient tout de même que la prophétie biblique s'accomplissait sous leurs yeux. Et ce n'était pas le cas. Au contraire, ils étaient contre le Seigneur parce qu'ils n'avaient pas reconnu le jour et l'heure de leur visitation par la grâce divine. Qu'en est-il aujourd'hui? Des églises? Qu'en est-il des nations et aussi du peuple d'Israël? Chaque chose a sa place. Ce que je voulais dire et ce que le Seigneur veut nous dire, c'est ceci. Depuis la Pentecôte, nous reconnaissons que ce n'est pas une nationalité, ce n'est pas une tribu, ce n'est pas un peuple, mais comme cela a été montré à Pierre dans Actes 10, dans une vision, dans le linge descendu du ciel, quand il a vu toute l'impureté là des animaux rampants et qu'il dit, Seigneur, jamais je n'ai mangé d'impureté. Et le Seigneur dit à haute et à voix audible et claire, ne tiens pas pour impur ce que j'ai purifié, mais mets-toi en route avec les hommes que j'ai envoyé. Amen. Nous avons à nous mettre en route et à reconnaître que Dieu a appelé de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations des hommes destinés à devenir croyants. Si nous sommes destinés à devenir croyants, alors nous sommes destinés à être des rachetés. Sommes-nous des rachetés? Alors nous sommes aussi des pardonnés. Nous sommes pardonnés. Alors nous sommes libérés de la culpabilité et du péché. Oui, la culpabilité a été remise. Le péché a été pardonné. C'est pourquoi nous devons et pouvons, en son nom, annoncer le pardon des péchés. Justification. Sanctification, baptême dans le Saint-Esprit, ciel ouvert, accès par l'Esprit à ce que l'Esprit lui-même dit aux églises. C'est de ça qu'il s'agit. Comme nous l'avons souligné hier soir, il y a eu des réveils et l'Esprit de Dieu a agi, nous le savons tous. Combien d'églises ont vu le jour parce qu'un réveil avait éclaté. Que s'est-il passé ensuite? Cela n'a pas duré trop longtemps. Toujours non. Ils ont réorganisé, reformé. Tout a été façonné selon certaines directives que les hommes ont considérées comme justes. Mais Dieu ne peut pas être mis dans une forme un moule est mort, une forme est morte, Dieu est vivant, Dieu ne cherche pas. Ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Il est ressuscité. Il apporte la résurrection à la. Il apporte la résurrection et la vie à toi et à moi. Il fait de nous un organisme vivant de son corps. Pour que par nous, le royaume de Dieu puisse se perpétuer sur la terre et que Dieu puisse y trouver son compte et y trouver ce qui lui revient de plein droit. C'est bien de cela qu'il s'agit. Mais nous voyons ici l'afflux du réservoir d'huile. L'afflux de l'huile venant du réservoir d'huile par les conduits. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut avoir, cette connexion. Quelle reconnaissance pouvons-nous avoir? Pas seulement une nouvelle naissance ou un renouvellement ou un baptême de l'esprit, mais l'apport, la connexion divine. Nous avons également parlé de cela dans le passé. Nous devons toujours être connectés à ce que Dieu est en train de faire. À l'époque, Jean avait son ministère, puis le Seigneur, Jésus, le sien. Ensuite, il y eut l'effusion du Saint-Esprit. Ensuite, nous avons les actes des apôtres. Et ensuite, il y eut les épîtres qui ont suivi, puis le dernier livre, l'Apocalypse de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Tout cela constitue un témoignage complet et achevé qui nous a été laissé dans les Saintes Écritures. Mais maintenant, nous devons reconnaître de quelle manière le royaume de Dieu se déroule, ce qui s'y passe, où est le royaume de Dieu, vraiment. Est-il en Allemagne, est-il en Amérique, où est-il? Où est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est intérieurement en vous. Le royaume de Dieu en vous, et vous dans le royaume de Dieu. C'est pas possible autrement. Il faut qu'il soit en nous pour que nous puissions être en lui. Vous reconnaissez le Seigneur et vous êtes reconnus par lui. Il y a un lien personnel, une relation avec lui, à lui, puis avec tout ce qu'il a promis dans sa parole pour ensuite le faire. Revenons au royaume de Dieu. Nous trouvons encore quelques passages dans le Nouveau Testament qui en parle, tout particulièrement dans Matthieu chapitre 13. Il y est question à plusieurs reprises du royaume de Dieu. Et je voudrais vous lire ce qui en fait est la bonne semence. Matthieu 13, ici il est écrit au verset 38. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, au contraire, ce sont les fils du méchant. Les uns, ce sont les fils de Dieu, et les fils de Dieu sont les fils du royaume de Dieu. L'ivraie, ce sont les fils du méchant. Ils appartiennent à l'ennemi. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu doit se faire et se fera avec nous et par nous. Vous pourriez dire, c'est une phrase très, très, qui va très, très loin. Non, ce n'est pas le cas. Car si Dieu avait pu tout faire sans nous, il n'aurait pas du tout créé le corps en tant qu'église. Il n'y aurait pas placé les dons et les ministères. Dieu voulait se créer un organisme vivant sur terre. Lorsqu'il a été manifesté en Christ, il est alors écrit de lui, « Tu m'as préparé un corps. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et ensuite, Paul écrit de l'Église, dans 1 Corinthiens 12, du verset 13, « Que nous avons été baptisés par un seul esprit, dans un seul esprit pour former un seul corps. » Donc, non pas une organisation morte, mais un organisme vivant, non pas des organisations mortes, mais un organisme vivant, rempli de l'Esprit de Dieu, conduit, inspiré, enseigné par l'Esprit de Dieu. Tout ce que l'Esprit de Dieu fait, cela se passe dans l'Église du Dieu vivant. Et ainsi, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Cela va encore plus loin dans Matthieu 13, verset 41. Il est écrit ici, Matthieu 13, verset 41, « Le Fils de l'homme enverra ses anges qui rassembleront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui pratiquent le péché, transgressent la loi. Le moment vient où tous les scandales, tous les obstacles seront retirés du royaume de Dieu. » Et vous remarquez déjà ce qui est écrit ensuite au verset 43. « Alors les justes brilleront dans le royaume de leur Père, comme celui que... » Et ensuite, il est écrit, comme dans l'Apocalypse, « Que celui qui a des oreilles entende. » Alors, dans quel moment, dans quel temps tout cela tombe-t-il dans l'événement final avec l'Église du Dieu vivant? Et nous croyons que le Seigneur a son chemin avec nous. De nombreux passages pourraient être lus au sujet du royaume de Dieu. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 4, je crois, que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Car ce n'est pas en paroles qu'est fondé le royaume de Dieu, mais en puissance. Il s'agit de quelle puissance ici? Comment cette puissance se manifeste-t-elle, s'opère-t-elle? Nous avons lu que la loi et les prophètes étaient jusqu'à Jean. C'est à partir de là que le royaume de Dieu est prêché. Mais le royaume de Dieu n'est pas seulement une proclamation en parole de la parole de Dieu. Dieu se tient en acte derrière ses paroles pour accomplir, pour faire, pour réaliser ce qui est prêché, ce qui est annoncé, ce qui est proclamé. C'est de ça qu'il s'agit. Nous pouvons donc compter sur le fait que ce qui s'est passé autrefois se passera maintenant, même si certains pensent que cela se passe si lentement. Mieux vaut être lent et minutieux, fondé dans les Écritures, que être rapide et tomber en panne. Voulons-nous suivre le rythme de Dieu, s'il vous plaît, et aller de l'avant dans la foi, tout en nous reposant sur la connaissance? C'est son œuvre, c'est son action, c'est son Église, c'est son royaume, c'est sa parole, c'est son peuple. Il s'agit de lui et donc de nous aussi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui, à son tour, a besoin de nous pour pouvoir faire ce qu'il s'est proposé de faire. Si je ne savais pas que le Dieu vivant veille sur sa parole pour qu'elle s'accomplisse au moment voulu. Et je suis en train d'écrire une brochure. De nouveau, il y a parfois des mots comme « au temps fixé ». Dieu a, en quelque sorte, fixé un temps pour tout. En particulier, lorsqu'il s'agit d'événements extraordinaires de l'histoire du salut. Alors, le temps a été fixé pour ça. Cela ne peut pas arriver plus tôt ni plus tard. En ce qui concerne le fait de devenir croyant pour servir le Seigneur, alors ça peut être aujourd'hui, ça peut arriver aujourd'hui en ce qui concerne les expériences avec le Seigneur, le fait de devenir croyant, de naître de nouveau, de vivre la conversion, d'être baptisé dans l'Esprit de Dieu, d'esprit et de feu. Toutes ces choses, nous pouvons les expérimenter chaque jour. C'est le temps dans lequel nous vivons. Personne n'a besoin de dire, oui, je verrai bien quand viendra mon heure et je me convertirai. Non. La parole est valable aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, votre cœur. Il ne s'agit pas d'attendre que votre heure vienne, mais de dire aujourd'hui, le aujourd'hui est valable. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Mais s'il s'agit du rassemblement d'Israël, de l'appel de l'Église, de la fin des temps et de tout ce qui s'y rapporte, il faut que le bon moment soit venu. Et alors Dieu fait se succéder les choses coup sur coup, l'une après l'autre. Le royaume de Dieu est laissé à Dieu, entre ses mains. Et nous, nous sommes entièrement confiés et remis à lui. Je ne crois pas que nous soyons venus ici pour seulement être ici. Je crois qu'il s'agit de que ce temps est un temps de préparation et que Dieu a veillé à ce que la nourriture soit disponible, à ce que la révélation afflue sur nous. Certains ont leur propre révélation. Merci à Dieu, nous pouvons nous en passer. Et si je le dis ici aujourd'hui, c'est aussi avec respect. Je n'ai pas encore reçu une seule révélation personnelle, pas une seule fois. Tout ce que j'ai, c'est la parole révélée par le Saint-Esprit. L'éclaircissement et la compréhension dans le conseil divin de salut ne viennent pas par la recherche de l'esprit humain, mais par la révélation de l'Esprit de Dieu. Dans le royaume de Dieu, tout est fondé sur la révélation. C'est ce que frère Branham a si bien et si souvent souligné. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et c'est sur ce rocher de la révélation divine de Jésus-Christ que l'Église est bâtie. Et l'Église elle-même deviendra aussi une révélation. Écoutez bien, lisez Romains 8. Toute la création attend la rédemption, la libération, et elle est liée à la manifestation des fils de Dieu. L'Église elle-même sera une manifestation. La manifestation des fils de Dieu, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, les enfants du royaume de Dieu, les fils du royaume de Dieu connaîtront expérimenteront leur glorification dans le royaume de Dieu, leur gloire dans le royaume de Dieu. Je pourrais aussi le lire dès maintenant qu'il n'est pas seulement écrit que le Seigneur reviendra pour amener les siens à la maison. Il est aussi écrit qu'il viendra pour être glorifié dans les siens et pour trouver l'admiration dans tous ceux qui sont devenus croyants. Il est écrit beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si les croyants du message de la fin des temps se réjouiront autant de n'importe quelle brochure que de la prochaine brochure qui met en lumière et montre les différentes venues du Seigneur dans le contexte précis. La joie et l'allégresse vont envahir nos cœurs. Lorsque nous lisons dans Zacharie 14, que le Seigneur posera, lorsque nous lisons dans Zacharie 14, que le Seigneur posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il s'agit d'une toute autre venue que celle de l'épouse. Comprenez-vous cela? Que celle de l'épouse. Donc, il s'agit d'une toute autre venue que celle où il revient prendre l'épouse. Donc, comprenez-vous cela? Chaque chose à sa place. S'il est écrit qu'il viendra et tous les anges avec lui, c'est encore une autre chose, une autre venue. Mais comme je l'ai dit, j'en éprouve une si grande joie. Je lis par exemple une chose ici dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le dernier verset. 1 Thessaloniciens chapitre 3, le dernier verset. 1 Thessaloniciens 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant notre Dieu et Père lorsque notre Seigneur Jésus viendra avec tous ses saints. Qu'est-ce que c'est pour une venue? Si nous allions là à Matthieu 27, verset 51, hein, il est dit plusieurs des saints sont ressuscités avec lui. Et nous savons, eux connaissons 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 14. Aussi certainement que nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Aussi certainement, Dieu réunira, conduira ceux qui se sont endormis avec lui par Jésus. Il en sera tout simplement ainsi. Alors, le jour sera venu, le matin glorieux, quand Abraham, Isaac et Jacob se rassembleront, tous les prophètes, tous les saints et les croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance, tous les apôtres, tous ceux qui ont été rachetés et sanctifiés en Christ se rassembleront pour célébrer alors, pour fêter alors le festin, le repas dans la gloire. Et nous voulons en faire partie. Si vous lisez Matthieu 27, il est à nouveau écrit et plusieurs des saints, plusieurs, pas tous, comme dans Matthieu 25, il y a toujours une partie qui est prête et une autre qui ne l'est pas. Mais cela aussi, nous l'expliquerons plus tard. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de reconnaître ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas en de vaines paroles, en des prédications seulement. Le royaume de Dieu consiste en puissance, à savoir la puissance de Dieu se manifeste pour confirmer la prédication. Dieu se ferait lui-même un chemin par puissance et tous ceux qui veulent y pénétrer doivent également se faire violence, se détacher de tout, s'arracher et être prêts à servir, à se mettre à la disposition du Seigneur, à suivre et à croire le Seigneur. Qui est prêt à le faire? Qui veut simplement dire au fond de son cœur, Seigneur, qui veut simplement dire de tout son cœur, Seigneur, fidèle, je ne veux pas de la deuxième résurrection, je veux être présent à la première résurrection. Mais écoutez, il est écrit, alors le royaume des cieux, que l'on dise royaume des cieux, que l'on dise royaume de Dieu, c'est toujours un seul et même royaume. Le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, donc aussi sur la terre. Et c'est dans ce contexte que se trouve la parole écrite dans Matthieu 24 au verset 14, que l'évangile du royaume, cet évangile du royaume, pas seulement l'évangile, mais l'évangile, cet évangile du royaume. Dans cette traduction, nous avons reçu le mot évangile comme message de salut. C'est exactement cela. L'évangile de Jésus-Christ est le message divin du salut. Le salut de Dieu est accordé à celui qui accepte par la foi, qui l'accepte par la foi. Et c'est pourquoi les traducteurs se sont donné la peine de nous faire comprendre à nous lecteurs ce que cela signifie. Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Et ce message concernant le royaume sera prêché par toute la terre, à toutes les nations. Matthieu 24, verset 14. Et en témoignage, et alors viendra la fin. Lorsque je vous ai brièvement lu ici hier soir la coupure de presse au que je l'ai suggéré, à savoir que le gouvernement de Moscou a décidé de libérer en novembre tous les croyants persécutés et ceux qui sont en prison. Je n'ai pas voulu le faire seulement pour l'annoncer, mais vraiment avec une joie et une, oui, un bonheur dans mon cœur de voir que Dieu prend également en main de manière visible et tangible les destinées terrestres des peuples. Dieu établit des rois. Dieu renverse des rois. Il dirige les cœurs des hommes comme des cours d'eau. Et si quelqu'un me dit que l'estimé M. Gorbatchev ne le fait que parce qu'il a pris du temps libre pour rencontrer la pluie, peu importe le plan qu'il a. Le plan de Dieu, moi c'est le plan de Dieu qui m'intéresse et je vous le dis très librement. Les peuples de cette époque doivent eux aussi trouver l'organisation conformément à la prophétie biblique. Il doit être ainsi, il doit en être ainsi pour que l'histoire divine du salut ait un caractère dans le fin, trouve son caractère dans la fin des temps. Et nous en sommes également reconnaissants de tout cœur. Tout suit son cours et le suivra. Seulement, comme nous l'avons déjà dit, nous voulons faire partie de ce déroulement divin. Être une partie, prendre part à ce que Dieu fait maintenant, individuellement. Même la nouvelle que les 100 000 premières Bibles en russe seront imprimées cette année encore et que cela sera publié dans le journal. Ça, c'est un bon pas, un vrai pas dans la bonne direction. Loué soit le nom du Seigneur, notre Dieu. Oui, Dieu est puissant. Il n'est pas seulement puissant, il est tout puissant. Et son royaume est un royaume éternel. Quand tous les autres royaumes seront écrasés sur le sol, alors le Dieu des cieux fera naître un royaume qui n'aura pas de fin dans l'éternité. Car son royaume est un royaume éternel. Et il est le roi éternel. Et nous avons reçu la vie éternelle pour pouvoir être éternellement dans le royaume de Dieu. Alléluia! Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Levons-nous pour adorer. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole. Je te remercie pour le temps de la grâce dans lequel nous vivons. Je te remercie de nous avoir donné l'onction des yeux, d'avoir oint nos yeux pour que nous puissions reconnaître le temps, la parole et l'heure dans laquelle nous vivons, que nous puissions accepter le message et le messager. Tu as toujours utilisé des hommes pour parler à travers eux, par eux. Tu étais celui qui parlait, celui qui agissait, celui qui marchait. Oui, c'est ainsi que Jean t'a vu, toi, le Seigneur fidèle, marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Tu avais dans ta main les sept étoiles, les sept messagers, les sept anges. Seigneur, nous te remercions de ce qu'il en est ainsi encore aujourd'hui, pas dans la main d'une dénomination, pas dans la main d'un homme. Un homme de Dieu est dans la main de Dieu. Il est déterminé à annoncer la parole de Dieu au peuple de Dieu, d'apporter la parole de l'heure. Et de la même manière qu'elle a été apportée, tu la vivifies en nous, tu nous en donnes la clarté et tu nous ouvres le sens, oui, pour la compréhension des Écritures, oui, la Seigneur bien-aimé, que ton nom soit sanctifié en vérité au milieu de nous, que ton règne soit, que ton royaume soit manifesté en vérité au milieu de nous avec puissance et force, que ta volonté, que ton règne soit manifesté en vérité au milieu de nous avec force et puissance, que ta volonté soit faite au milieu de nous par grâce. Seigneur, nous sommes ici, nous nous tenons, nous nous mettons à ta disposition. Nous ne savons pas ce que nous devons désirer sur le plan terrestre ou sur le plan spirituel. Prends toi-même nos décisions. Que ta volonté s'accomplisse pleinement dans notre vie. Seigneur, à moins que ton bon plaisir ne repose sur nous, sinon nous ne pourrons pas subsister devant toi et nous tenir devant toi. Pour nous aussi, le témoignage doit être rendu. Voici mon fils bien-aimé, voici ma fille bien-aimée, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. Seigneur, ouvre les cieux. Oui, le ciel est déjà ouvert. Nous te remercions parce que le réservoir d'huile n'est pas encore vide. Il est encore rempli. L'Esprit de Dieu est là aujourd'hui, comme il était là le jour de la Pentecôte pour remplir ton peuple, pour le faire revivre. Ô Seigneur, toi, le Dieu fidèle, toi, le Dieu vrai qui nous a parlé, confirme ta parole par la puissance de ton esprit. Révèle les frères, équipe les frères, révèle les frères, distribue les dons et les tâches. Seigneur, rassemble ton peuple. Enlève de notre vie et de notre cœur tout ce qui est puéril, tout ce qui est enfantin, tout ce qui dérange, voire tout ce qui détruit. Et toi-même bâtis ton église, unis-nous pour que nous puissions dire cœur et cœur unis ensemble. Un seul cœur, une seule âme, cherchant en Dieu le repos du cœur. Seigneur, il y a un repos encore aujourd'hui présent pour le peuple de Dieu. Sauveur bien-aimé, prends-nous entièrement à ta disposition. Qu'il ne nous soit pas enlevé, que le royaume de Dieu ne nous soit pas enlevé pour être donné à un autre peuple. Seigneur, que ton royaume et tout ce qui s'y rapporte et appartienne, tout ce qui appartient au royaume, nous soit donné par grâce et que nous naissions dans ton royaume pour avoir part à ce que tu fais. Seigneur, tout t'est confié. Tout est donné, fait selon ta parole pour nous et en nous et avec nous tous. Selon ton bon plaisir, sauve les perdus, guéris les malades, baptise d'esprit et de feu et libère tous ceux qui sont enchaînés, qui sont liés ou même possédés. Seigneur, accorde ta grâce. Que l'Esprit du Seigneur, Dieu, vienne si puissamment sur l'Église, que toute la puissance de Satan, considérée soit comme vaincue, veuille quitter la pièce et le peuple, et que la victoire de Dieu, la victoire de Golgotha, soit rendue manifeste. Jésus, vainqueur de Golgotha, confirme ta parole et glorifie ton nom. Nous te remercions encore une fois de tout cœur pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen.